Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde. Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de passer l'heure qui vient en votre compagnie. On tourne ensemble les pages des carnets pour écouter le monde changer. Et à quelques jours de tourner la page de Noël, même s'il est un peu bizarre cette année, je vous emmène dans l'usine de Noël, là où l'on fabrique la majeure partie de nos guirlandes et sapins en plastique. Et ça ne vous surprendra pas si je vous dis que sur ce coup-là, les lutins du Père Noël sont en Chine. On sera aussi en Hongrie et à Bruxelles pour examiner d'un peu plus près ce compromis trouvé il y a 10 jours sur un nouveau mécanisme censé bloquer les fonds européens pour les pays ne respectant pas l'état de droit. Les deux parties crient victoire. Y aurait-il arnaque ? Je vous emmènerai en Inde, où les caricaturistes, mais surtout les humoristes, subissent les pressions du pouvoir. Les fondamentalistes hindous ne supportent pas la critique. Enfin, nous serons sur la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, là où affluent des dizaines de milliers de réfugiés qui fuient bombardements et assauts de leur village du Tigré, une région éthiopienne. Un conflit interne provoqué par le Premier ministre, pourtant prix Nobel de la paix. On va vous expliquer tout ça. Les carnets du monde sont ouverts, direction Yiwu en Chine.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Pour les retardataires, il serait temps de faire le sapin. On ressort les décorations, les lumières. Et il y a de fortes chances que tout cela vienne de Chine. Car figurez-vous que 95% des décorations et des jouets de Noël sont fabriqués là-bas dans l'Empire du Milieu. Et la grande majorité, 80% au moins, des boules, guirlandes et sapins en plastique qui décorent vos salons est fabriquée dans la ville de Yiwu, au sud de Shanghai. Une ville devenue le supermarché du Père Noël et que nous fait visiter Sébastien Lebelzik. Reportage.
6 millions de mètres carrés, plus de 100 000 boutiques. Le marché international de Yiwu est une caverne d'Ali Baba du Made in China. Et plus précisément en ce moment, la caverne du Père Noël. On raconte qu'il faudrait une année complète pour en faire le tour. Alors pour ne pas se perdre, c'est Mario Chevalier, un négociant français, qui nous emmène dans les allées du marché qu'il parcourt au pas de charge, calculette en main.
Et là, Bania, ce que ça tient ?
Et ça, tu le vends combien, chef ?
Hein ?
À peu près 100 yuan.
Yampin, yo meo.
Vas-y, montre-moi.
4 centimes d'euros, la guirlande. En gros, il faut compter 30% de taxes, ça fait à peine 6 centimes payés en France, la guirlande. Je pense que minimum, c'est vendu 1 euro, ça, en France. Il y a quand même de la marge à faire dans ces produits-là.
La tournée des boutiques se prolonge toute la matinée, avec toujours le même dialogue en mandarin. Mario est le seul acheteur français installé à Yiwu. Il y vit depuis 10 ans et chaque année, c'est la même chanson. Il part à la chasse aux bonnes affaires qu'il expédie ensuite au Havre par bateau. Mais attention aux normes, Mario nous montre des sapins en plastique vendus 4 euros pièce, mais qui seraient invendables en France.
Donc qu'est-ce qui est important au niveau des normes ?
C'est le bout des branches en fait, on ne doit pas avoir la ferraille comme on voit là. Ils doivent être recouverts avec un tissu ou un couvercle dessus, pour de façon à ce que les enfants ou personne ne se blesse. Vous voyez là, on peut se blesser avec. C'est la seule norme qui est exigée pour l'Europe. Regardez, vous voyez, ça griffe. Vous voyez mon doigt ? Il faut qu'il soit recouvert d'un capuchon ou d'un bout de tissu sur le bout des extrémités des branches. Et elle peut me le fabriquer, mais demain, on voit l'échantillon parce qu'ils n'ont pas l'échantillon actuellement.
Des problèmes de qualité que l'on retrouve sur tous les articles de Noël. C'est ce que l'on appelle les fausses bonnes affaires.
Par exemple, le grammage des poils. Au lieu de mettre 200 poils à la branche, ils peuvent en mettre qu'une cinquantaine. Le plastique ici, ils peuvent diminuer tout. Donc en trichant sur les qualités, ils trichent sur le prix, quoi. On en a pour son argent, en fait.
Alors qu'est-ce que vous essayez de négocier là ?
Des commandes pour les sapins de Noël, pour les commandes de Noël, pour des clients.
Comment ça se passe ici dans ce marché ?
On fait un bon de commande. Après on exige, comme là j'ai exigé les numéros de référence à mettre sur les cartons. Et voilà. Et ils nous livrent à notre dépôt après. J'ai exigé la livraison pour le vin de ce mois.
Dans quelles conditions ces sapins sont-ils fabriqués ? Pour le savoir, direction une usine à une trentaine de minutes de route du marché de Yiwu. Un bâtiment gris et sale où travaillent ce jour-là une dizaine d'ouvrières payées à la pièce. 10 heures par jour, elles gagnent autour de 500 euros par mois, parfois deux fois plus en période de forte commande, comme c'est le cas à l'approche de Noël. Un atelier minuscule, mais il y en a comme ça des milliers dans toute la ville. Cette entreprise écoule ainsi un tiers de ses sapins en France et c'est Bayu, la directrice, qui nous fait visiter.
Nous avons beaucoup de clients du monde entier. On vend 100 000 sapins en France, par exemple. Les étrangers, ils savent bien ce que signifie Noël, les origines de cette fête. Mais ici, les gens, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas pourquoi on célèbre cette fête de Noël. Ce n'est pas dans leur culture. Nous leur expliquons d'où viennent les célébrations de Noël, la naissance de Jésus, tout ça.
Les ouvrières qui de toute façon sont habituées à se plier aux commandes venues du monde entier. Ce jour-là, elles emballent 1 million de sapins en plastique en partance pour le Mexique, avant d'enchaîner sur les décorations du Nouvel An orthodoxe, puis celles du Nouvel An chinois. Un atelier symbole de cette mondialisation que représente le marché de Yiwu en Chine. Si on ne fête pas Noël, au moins on le fabrique. À Yiwu, Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et Sébastien est en ligne avec nous de retour à Pékin après ce reportage. Attention, je m'essaye au mandarin. Shengdeng Kuai Le, Sébastien.
Oui, Sophie, très bien. Shengdeng Kuai Le, ça veut dire joyeux Noël en mandarin.
Ouais, il faut encore que je m'entraîne un petit peu. Quelques mots d'abord, Sébastien, sur ce marché de Yiwu. C'est fascinant à la fois, un peu effrayant aussi.
Oui, ça montre en fait cette formidable capacité d'adaptation de la Chine qui est capable de produire donc toutes ces décorations de Noël, mais aussi celles pour Halloween ou évidemment, bien sûr, pour le Nouvel An chinois. Yiwu, c'est un peu le supermarché du monde. On y vend à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Et évidemment, donc, la quasi-totalité des décorations de Noël, c'est le plus important marché de gros de la planète.
Paradoxalement, on ne fête pas Noël en Chine, ou très peu.
Et non, d'abord, ce n'est pas un jour férié ici, ce n'est pas une fête à Pékin. En ce moment, il y a d'ailleurs vraiment très peu de décorations de Noël dans les rues. Pas de Père Noël qui se font prendre en photo avec les enfants, pas de sapin, évidemment pas de crèche. Et je dirais même beaucoup moins qu'avant, en fait, puisque je me souviens, il y a quelques années encore, les décorations étaient beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus voyantes dans les rues. Il y avait même pas mal de marchés de Noël ici à Pékin. Mais récemment, le gouvernement chinois, ou plutôt le Parti communiste, a décrété que Noël était une fête occidentale et que donc elle ne devait pas être célébrée en Chine de façon ostentatoire. Et donc, fini les décorations. Ouais. Il faudra attendre en fait mi-février, le Nouvel An chinois, pour que la ville retrouve un peu de couleur.
Pourtant, il y a bien des Chinois chrétiens.
Oui, mais c'est une minorité ici. La Chine, c'est d'abord une république populaire, officiellement athée. La religion est considérée comme l'opium du peuple. Elle est donc, ces religions sont donc toutes placées sous le contrôle très strict du Parti communiste qui nomme les évêques. Et d'ailleurs, il n'y a toujours aucune relation diplomatique officielle entre la Chine et le Vatican. En fait, il y a deux églises en Chine. D'un côté, une église officielle avec des évêques et des prêtres, mais qui sont nommés par Pékin. Et donc, les prêches sont contrôlés étroitement par le Parti communiste. Et puis, il y a aussi, depuis les années 50, une église clandestine, souterraine, qui prête, elle, allégeance au pape, avec des évêques nommés par le Saint-Siège. Mais une église, vous l'imaginez, qui est pourchassée par la police chinoise.
Et donc, quelle est la proportion de ces chrétiens en Chine ?
Alors, il représenterait quand même autour de 5% de la population chinoise, c'est-à-dire en gros la population française, soit environ 70 millions de chrétiens, dont à peine 10 millions de catholiques. Les protestants sont majoritaires en Chine. Mais officiellement, le gouvernement chinois donne un chiffre deux fois moindre à cause sans doute de cette église à double vitesse dont je vous parlais. Les catholiques officiels placés sous l'autorité du parti célèbrent Noël. Il y aura quand même quelques messes dans le pays. Et puis, il y a les catholiques souterrains, les clandestins, qui célèbrent, eux, des messes dans des sortes de catacombes et qui ne reconnaissent pas l'autorité du régime, mais celui du pape. Ils sont donc poursuivis par la police, ils sont très, très discrets. Donc, vous le voyez, Noël, là-dedans, c'est d'abord une affaire qui devient vite politique et on préfère contenter d'exporter des sapins en plastique plutôt que de se retrouver autour du sapin en famille pour ouvrir des cadeaux. Et comme l'expliquait la responsable de l'usine dans le sujet que vous avez entendu, c'est aussi culturel en Chine, cette grande fête. Parce que cette grande fête, la grande fête en fait de l'année, c'est le nouvel an lunaire, le nouvel an chinois que l'on célébrera cette année, mi-février, mais sans sapin.
Merci Sébastien pour cette plongée dans l'usine chinoise de Noël. On va peut-être regarder nos guirlandes autrement et grâce à vous, on a même le jingle bell qui va avec les guirlandes en mandarin. Merci Sébastien, à bientôt.
Merci Sophie et joyeux Noël.
Joyeux Noël. Donc on dit ding 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 en mandarin. Et dans un instant, c'est en Hongrie qu'on sera. La Hongrie qui continue à préoccuper l'Europe pour un sujet, le respect de l'état de droit.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est un peu l'arlésienne au sein de l'Union européenne. Comment faire pour que certains pays ne s'éloignent pas des valeurs communes européennes et respectent l'état de droit ? Dans le viseur depuis plusieurs années, la Pologne et la Hongrie, où sont mises à mal l'indépendance de la justice, par exemple, ou celle des médias. Il y a 10 jours, le Conseil européen validait un nouveau mécanisme qui conditionne l'octroi des fonds européens au respect de cet état de droit. Un mécanisme négocié pied à pied avec Budapest et Varsovie, qui faisait ce qu'on peut appeler un chantage. On vous l'avait raconté, pour bloquer ce nouveau règlement, il refusait de voter le budget et notamment le fameux plan de relance, pourtant très attendu pour financer les conséquences de la pandémie. Un compromis a donc finalement été trouvé, mais est-ce vraiment une avancée ? On peut se poser la question à entendre les cris de victoire des partisans de Viktor Orban en Hongrie. Joël Le Pavou est à Budapest.
À Budapest, les partisans de Viktor Orban ont sabré le champagne après l'accord du jeudi 10 décembre. Pour eux, aucun doute, le bon sens l'a emporté et l'Union européenne s'est inclinée devant la menace du veto. Levente Sitkai, rédacteur en chef au quotidien pro-gouvernemental Magyar Nemzet, considère que le compromis approuvé par les 27 rétablit l'équilibre en Europe.
La Hongrie est non seulement parvenue à obtenir la garantie de recevoir les fonds européens, mais aussi à montrer qu'on peut se faire entendre. La Hongrie n'est pas un pays de la vieille Europe, comme l'Allemagne, la France ou l'Espagne, beaucoup plus puissante économiquement. Mais juridiquement, la Hongrie a exactement autant de droits que les pays que je viens de mentionner, et les 10 États membres ayant rejoint l'Union en 2004 ont tendance à oublier les leurs.
Autre motif de satisfaction pour les soutiens d'Orban, la Hongrie et la Pologne ont à nouveau fait bloc. Les deux pays font l'objet de procédures pour non-respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Selon le politologue proche du pouvoir Ágoston Samuel-Embraz, c'est pour eux aujourd'hui un vrai succès politique.
Un rapport avait été voté qui affirmait qu'il n'y avait pas d'état de droit en Hongrie et en Pologne. Pardonnez-moi, mais ces deux gouvernements, se sachant pertinemment condamnés d'office, auraient été bêtes d'accepter ce mécanisme de l'état de droit sous sa forme précédente. Pour le gouvernement hongrois, c'est une victoire évidente, car son objectif était en priorité de défendre sa souveraineté et d'empêcher toute ingérence dans la campagne des élections de 2022 en privant la Hongrie de fonds européens ou en punissant symboliquement le pays.
La Hongrie ne pouvait en aucun cas se priver de cette manne des fonds européens qui profite au passage aux amis et membres de la famille de Viktor Orban. Les Hongrois ont bien compris la stratégie de leur Premier ministre, à l'image de Zsuzsanna et Eva, mère au foyer et retraitée.
Pour Orban, c'est une victoire, parce que c'était une situation délicate pour lui. Il a réussi à s'en sortir. Pour les Hongrois, leur point de vue ne compte pas.
C'est en raison des prochaines élections que tout se passe dans la tête d'Orban. J'espère que l'on ne va pas être isolé, puisque en Hongrie, il y a quand même des grandes villes, et ma ville de Budapest qui est en opposition à tout ça.
Pour l'heure, le fidèle du Premier ministre Viktor Orban reste, et de loin, le premier parti du pays dans les sondages. Budapest, Joël Le Pavou, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 avec cette question. Ce nouveau mécanisme européen est-il une victoire pour Viktor Orban ou une avancée pour l'état de droit en Europe ? On va essayer d'en évaluer un peu mieux la portée et pour ça, on file à Bruxelles retrouver Isabelle Horry. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Alors, est-ce que l'Europe a vraiment lâché sur ses valeurs pour que le plan de relance post-Covid puisse être adopté ?
Bon, il y a une forme de malentendu sur la réglementation que l'Union européenne a adoptée. Ses objectifs et sa portée sont limités, c'est vrai, mais ça a toujours été prévu comme ça. Alors, je vous explique. Le nouveau texte met en place ce qu'on appelle, en jargon européen, une conditionnalité liée à l'état de droit pour l'utilisation des fonds européens. Ça ne veut pas dire que la Commission européenne va évaluer l'état de droit de façon globale dans un pays et qu'ensuite, elle dira s'il peut toucher de l'argent de la PAC ou de la politique régionale. Non, ça veut dire que Bruxelles va regarder si les conditions sont réunies pour que les fonds européens soient bien utilisés, parviennent à leur destinataire, qu'il puisse y avoir un recours, ce genre de choses.
Ouais, en résumé, s'il y a de la fraude ou de la corruption, si l'argent de l'Europe risque d'avoir été détourné, on coupe le robinet. Mais si les droits des personnes LGBT sont violés, par exemple, là, il ne se passe rien, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Mais alors attention, ce n'est pas anodin pour autant, parce que par ce biais, par exemple, il est possible d'avoir un droit de regard sur le fonctionnement de la justice. Écoutez l'espoir de Katalin Cseh, c'est une députée européenne hongroise du parti d'opposition centriste Momentum.
Laissez-moi vous décrire l'espèce de jour sans fin dont nous sommes prisonniers en Hongrie. Les fonds européens n'arrivent jamais auprès de nos communautés défavorisées. En revanche, ils sont perçus par la femme d'un homme politique du Fidesz ou par le gendre de Viktor Orban. Mais comme le procureur principal est aussi membre du Fidesz, il n'y a pas d'enquête. Et cela fait 10 ans que c'est comme ça. Depuis le début de mon mandat, nous avons soulevé ce sujet dans des auditions au Parlement ou en plénière. La réponse était toujours la même. L'Union européenne est profondément préoccupée, mais nous n'avons pas les outils pour agir. À partir du 1er janvier, avec le nouveau mécanisme, cette excuse ne tiendra plus.
Voilà, on entend bien. Hein. Mais alors Isabelle, pourquoi les Européens ne sont pas allés plus loin ? Pourquoi ne pas tenir compte de l'état de la liberté de la presse, par exemple, ou des droits des minorités ?
Parce qu'il y a déjà une procédure prévue par les traités européens, c'est celle de l'article 7. En cas de violation systématique de l'état de droit, un pays peut en théorie être privé de son droit de vote au niveau européen. Le problème, c'est que cet article 7, il exige un vote à l'unanimité. Mais comme il existe, il est juridiquement impossible de mettre en place une autre loi européenne qui aurait exactement le même objectif. Les Hongrois et les Polonais sont très vigilants là-dessus.
Mais alors, quand même, au sujet de cette nouvelle conditionnalité état de droit, si limitée soit-elle, Budapest et Varsovie estiment avoir arraché des concessions.
En fait, pas un mot du texte créant le nouveau mécanisme n'a été touché. Hongrois et Polonais ont surtout obtenu des clarifications sur sa portée et surtout la garantie que les premières sanctions ne tomberont que quand la Cour européenne de justice aura examiné le mécanisme. Budapest pense que ça va repousser les éventuels problèmes à après les élections législatives d'avril 2022. Ce qui arrange bien Viktor Orban. Mais Bruxelles, de son côté, parle de concessions mineures. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a voulu dissiper les inquiétudes cette semaine au Parlement européen.
Il y a cette peur que l'application du mécanisme soit retardée et que par là même, la justice soit retardée et ne passe pas. Cela n'arrivera pas. La régulation s'appliquera à partir du 1er janvier 2021. Elle couvrira toutes les violations commises à partir de cette date. Je peux vous l'assurer, la Commission appliquera la loi et sera totalement indépendante et objective.
On entend la promesse de la présidente de la Commission européenne et on verra dans les mois qui viennent si ce nouvel instrument a vraiment un impact sur la Hongrie et la Pologne.
Des pays, rappelons-le quand même, pour qui l'argent du budget européen est très important. Ouais. Ils représentent plusieurs points de leur PIB.
Pour autant, Isabelle, on a quand même le sentiment que l'Europe reste globalement très timide vis-à-vis de deux pays dont la dérive autoritaire est constatée par tous. Je vous propose d'écouter la déception de Benedek Javor. C'est un ancien député européen hongrois dans l'opposition à Viktor Orban et qui aujourd'hui représente la ville de Budapest auprès de l'Union européenne.
Cet accord aide Viktor Orban à consolider sa popularité jusqu'aux élections de 2022 avec l'aide des fonds européens. Et le fait que leur mauvaise utilisation alimente la corruption, ce n'est qu'un problème parmi d'autres. De nombreuses mesures qui limitent et détricotent la démocratie ont été prises par le gouvernement. Et celles-ci ne sont pas liées aux fonds européens. Les institutions européennes ont donc fort à faire bien au-delà de la défense du budget. On ne peut pas attendre de cet outil de l'état de droit qu'il solutionne tous les problèmes posés par la Hongrie et la Pologne dans l'Union européenne.
Alors on comprend que ce système ne solutionne pas tous ces problèmes posés par la Hongrie et la Pologne, comme dit cet opposant hongrois. Comment faire alors, Isabelle ?
C'est compliqué. L'Union européenne, c'est un club où tout le monde se tient. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Si Hongrie et Pologne s'estiment injustement ciblées, elles peuvent paralyser tout le fonctionnement européen, comme on l'a vu d'ailleurs avec le plan de relance. En fait, il faudrait pouvoir les menacer d'exclusion, mais ça n'est pas prévu par les traités. Personne n'avait imaginé que l'Europe aurait un jour un tel problème de respect des valeurs fondamentales.
Donc les Européens sont condamnés à une relative impuissance, alors même que les alertes sur l'état de droit se font entendre aussi en Slovénie, en Bulgarie ou encore en Roumanie ?
Oui et non. Oui, parce qu'il n'y a pas de mesure 100% efficace. Un manque de volonté politique aussi peut-être. Mais tout n'est pas sombre. Il y a ce nouveau mécanisme, il y a l'action de la justice européenne. Cette semaine encore, elle a condamné les manquements de la politique d'asile en Hongrie. Et il y a aussi chaque année désormais un rapport sur l'état de l'état de droit dans tous les pays. Bref, il y a des tentatives trop timides, trop lentes, mais elles existent. J'ai envie de dire que si on est un spécialiste du droit et des libertés publiques, c'est un peu désespérant. Mais si on est un spécialiste de l'Union européenne comme moi, on voit quelques raisons d'espérer quand même.
Eh bien, on va espérer avec vous que les lignes bougent. En tout cas, c'est bien plus clair maintenant. Un grand merci, Isabelle. Et rendez-vous en 2021 pour la suite de l'aventure européenne.
À bientôt.
À bientôt. On va faire une pause. Une pause littéraire avec Nicolas Carreau qui nous rejoint dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
La découverte du monde à travers le regard des écrivains. C'est un livre dans le monde, le rendez-vous littéraire des carnets avec Nicolas Carreau. Salut Nicolas.
Salut Sophie.
Avec cette semaine, un voyage un peu particulier. Vous nous emmenez en Amérique, mais on reste en France, m'avez-vous dit, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire à Paris, pour les 100 ans de l'American Library, la bibliothèque américaine avec ce faux ami anglais, vous savez, library égale bibliothèque. Janet Skelsin Charles, l'ancienne directrice de la programmation de la bibliothèque, publie chez Attès un roman inspiré de l'histoire de l'American Library. Ça s'appelle « Une soif de livres et de liberté ».
Parce que son histoire est étonnante.
Bien entendu.
Remarquable.
Sa création d'abord, c'était en 1920. J'ai rencontré Janet Skelsin Charles qui nous raconte avec un accent merveilleux.
Il y avait un soldat en particulier, Alan Seeger, qui est mort. Il est venu en France avant que les Américains entrent en guerre en 1917. Il voulait combattre avec les Français. Donc il est venu plus tôt. Il est intégré l'escadron Lafayette. Et donc, il est mort ici en France et son père, Charles Seeger, voulait faire une sorte de monument pour son fils qui était poète. Un des poèmes d'Alan Seeger était le poème préféré de John F. Kennedy, « I have a rendezvous with death ». Donc, pour vous dire que c'était un grand poète, il était très jeune, il est mort trop tôt et son père voulait faire un monument, mais peut-être pas un monument en béton. Il a voulu faire une sorte de bibliothèque pour que les gens puissent se réunir autour des livres.
I have a rendezvous with death. J'ai rendez-vous avec la mort. Terrible.
Incroyable. L'histoire de cette bibliothèque est incroyable. Par ses visiteurs aussi, les Américains à Paris, notamment Edith Wharton, par exemple, l'auteur du Temps de l'innocence, il venait. Hemingway aussi, Beckett. Elle a servi au dépôt pour envoyer des livres aux soldats sur le front. Vous vous rendez compte au passage de ce monde où le plaisir ultime, c'était de recevoir un livre. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a joué son rôle aussi. Étrangement, elle n'a pas été fermée. Les ressortissants américains étaient censés rentrer chez eux, mais les bibliothécaires sont restés et la bibliothèque n'a pas fermé, contrairement à beaucoup d'autres.
Il y avait un nazi qui s'appelait Hermann Fuchs. Il était le Bibliothekschutz, le protecteur des bibliothèques. C'est un terme ironique. Mais ce qui a peut-être sauvé la bibliothèque américaine, c'est les liens que la directrice de la bibliothèque avait avec Hermann Fuchs, parce qu'avant la guerre, ils sont allés aux conférences des bibliothèques et des bibliothécaires. Ils se connaissaient. Il avait beaucoup d'admiration pour la directrice. Ce que les bibliothécaires ont dit à l'époque, c'est qu'il a tourné l'œil.
Il a fermé les yeux.
Voilà, tourner de l'œil, c'est autre chose. Pas facile, les expressions françaises. Mais donc, cette bibliothèque est restée ouverte et elle a servi aussi de réseau pour distribuer en secret des livres aux Juifs qui avaient interdiction d'y entrer. Et le roman de Janet Skelsin Charles se passe justement à cette époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, avec son héroïne, Odile Souchet, qui résiste par et avec les livres.
Passionnant. Une soif de livres et de liberté, donc publiée chez Lattès. Avant de partir, Nicolas, vous nous donnez encore une ou deux idées de romans ou comme bon cadeau de dernière minute, tout juste pour les vacances.
Sure. On part en Tunisie d'abord avec Annick Pérez qui publie Une nuit à Carthage. Nous sommes à Beaucite, la banlieue de Tunis, en 1947. Alice est issue d'une famille nombreuse. Elle tombe amoureuse de Neldo, sorte d'aventurier idéaliste qui travaille pour le Mossad d'ailleurs. Mais il y a Paul aussi, son voisin, fou amoureux d'elle. Donc une histoire d'amour et histoire tout court. On suit l'histoire de 47 à 2019, la vie en Tunisie, la décolonisation, une fresque dans une nouvelle collection de Balzac éditeur, Domaine méditerranéen, pour des auteurs venus du Maghreb. Et puis, on en avait parlé ici même, Sophie, un roman argentin, un road trip en Patagonie signé Eduardo Fernando Varela chez Métellier, magnifique, Patagonie, route 203, l'histoire de Parker. Vous vous souvenez, un routier qui transporte des marchandises sur des milliers de kilomètres sans croiser personne jamais, de Buenos Aires jusqu'à tout en bas. Poétique, drôle et épique.
Merci beaucoup pour ces bons conseils, Nicolas. Et on vous retrouve tout à l'heure pour La Voix et Livre.
Spécial conte de Noël avec Gérard Jugnot.
Très bien, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Étape suivante, on file en Inde où on parle aussi de liberté d'expression. Là-bas, ce sont beaucoup les humoristes qui sont la cible des fondamentalistes.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Mercredi, c'était la fin du procès Charlie en France, un procès historique qui aura notamment rappelé la liberté de critiquer les religions. Dans les carnets aujourd'hui, on file en Inde pour s'intéresser à ceux qui, dans ce grand pays complexe, jouent ce rôle de poil à gratter. Il s'agit des humoristes. La stand-up comédie à l'américaine a conquis le pays en quelques années et certains de ces artistes comiques devenus des stars n'hésitent pas à questionner le gouvernement, la religion, la société. Des voix que le pouvoir en place et les fondamentalistes hindous qu'ils soutiennent essayent de briser. Les pressions judiciaires et les menaces se multiplient contre les humoristes trop dérangeants. Comme Bastin a assisté au spectacle de Kunal Kamra, qui est un peu devenu l'ennemi comique numéro un du pays. Reportage dans les villes de Pune et Bombay.
Covid oblige, une chaise sur deux est occupée, mais les fans de Kunal Kamra sont bienvenus. Et pendant qu'ils patientent dans la salle du Spade Comedy Club de la ville de Pune, la première partie donne le ton.
Bienvenue au live de Kunal Kamra. Je ne suis pas Kunal Kamra pour de très bonnes raisons. La première, c'est que j'ai moins de procès aux fesses. Et la deuxième, c'est que je ne suis pas obligé de porter un masque partout. Pas contre le corona, hein, mais pour ma propre sécurité. En tout cas, merci d'être venu. Toutes les recettes de ce spectacle seront reversées au fonds de charité de notre Premier ministre.
Le fonds de charité en question, censé venir en aide aux victimes du Covid, est sous le feu des critiques pour son opacité. Et si la salle est-il large, c'est bien parce que Kunal Kamra s'est fait connaître pour son humour politique tranchant contre le pouvoir en place. Il débarque sur scène, accueilli comme une star, et enchaîne les sarcasmes contre les nationalistes hindous au pouvoir. Avec près de 2 millions d'abonnés sur YouTube et sur Twitter, l'humoriste est devenu l'idole d'une partie de la jeunesse. C'est ce qu'explique ce fan.
Depuis 5 ans, la scène de stand-up indienne s'est considérablement développée. Il questionne le pouvoir en place, il comble un vide. On attendrait que les partis d'opposition ou bien les chaînes de télévision le fassent, mais ils ont peur de prendre clairement position. Donc ce sont les artistes par l'humour qui font comprendre à tout le monde qu'il faut critiquer le gouvernement. Kunal Kamra fait face à un déchaînement de haine, mais il continue à monter sur scène et ça, c'est fantastique.
Kunal Kamra s'est en effet attiré les foudres des partisans de Narendra Modi ainsi que de nombreuses plaintes. Ses spectacles ont été annulés, il a même été interdit de vol sur toutes les compagnies aériennes pendant plusieurs mois après une altercation avec un journaliste proche du régime. Dernier épisode en date, une série de tweets dans lesquels il ironise sur l'indépendance de la Cour suprême. Ce vendredi, la plus haute institution du pays l'a sommé de s'expliquer sous peine d'un procès avec risque de prison. Mais depuis sa loge, Kunal Kamra explique qu'il assume ses propos.
Moi, je me définis comme un comédien observateur, mais parce que j'observe les remous de la vie politique et l'hypocrisie du régime en place, je suis plutôt perçu comme un satiriste, voire comme un opposant. La politique, on ne la choisit pas, elle entre dans nos vies. Et aujourd'hui, si on ne critique pas les puissants, qui va-t-on critiquer ? La réponse à un artiste devrait être l'art. On ne répond pas à un artiste par la force, par l'interdiction de se produire, par des attaques judiciaires.
Comme Kunal Kamra, c'est d'abord en tant qu'artiste qu'Agrimage au choix aimerait être perçu. Cette jeune comédienne a eu le malheur dans un sketch de se moquer d'un roi mythique, ou plutôt du coûteux projet de construction d'une statue à son effigie.
Cette magnifique statue imaginée par notre Premier ministre Modi alimentera en énergie tout l'état de Bombay. Elle tirera des lasers par les yeux contre les terroristes pakistanais.
Ce sketch remonte à plusieurs années, joué sur la scène du Habitat, un théâtre de Bombay où beaucoup de jeunes comédiens ont fait leur première planche, mais il a été déterré il y a seulement quelques mois avec un hashtag « Hindouphobic Comedy ». Agrimage au choix raconte ce qu'il s'est alors passé.
Cette vidéo a été sortie de son contexte et diffusée par un groupe Twitter qui s'appelle la Cellule numérique hindoue. Je ne sais pas exactement qui ils sont, mais ils ont réussi à rassembler une foule en colère qui a fait intrusion dans notre théâtre de Habitat. Ils ont alors commencé à tout casser à l'intérieur et demandé à ce que j'envoie des excuses. J'ai aussi reçu beaucoup de menaces en ligne.
Le directeur de cette cellule de surveillance numérique a accepté de me parler. Il s'appelle Ramesh Solanki et se désolidarise de toute violence physique et menace. Pour lui, les hindous sont simplement victimes d'un acharnement.
Juste parce que l'hindouisme est une religion tolérante, nous sommes des cibles faciles. Tous ces prétendus comiques, 99% de leur contenu est hindouphobique. Ils passent leur temps à se moquer de nos dieux et de nos déesses. Avec une dizaine de volontaires, nous avons donc lancé en avril la cellule de surveillance numérique hindoue. Nous avons des avocats, une équipe chargée de traquer les contenus et des membres qui peuvent porter plainte, informer la police, alerter le gouvernement. Petit à petit, d'autres nous ont rejoints et nous avons aujourd'hui 500 membres.
À ce jour, aucun artiste de stand-up indien n'a été tué, mais beaucoup, comme Kunal Kamra ou Agrima Joshua, ont vu leurs coordonnées rendues publiques sur Internet après un sketch. En privé, certains confient qu'ils s'auto-censurent devant les pressions dont ils sont la cible. Cette censure, insidieuse, s'abat sur un espace de liberté jeune mais précieux dans une Inde où le fondamentalisme religieux gagne du terrain. À Bombay, Combastin, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et en ligne avec notre correspondant depuis Bombay. Bonjour Com.
Bonjour Sophie.
Vous ne l'avez pas précisé, mais ce fondamentalisme religieux qui gagne du terrain, c'est le nationalisme hindou.
Bien sûr, depuis son élection en 2014, Narendra Modi a fait de la défense de l'hindouisme son cheval de bataille, avec la mise en avant de ce concept d'hindouphobie qui prétend que la majorité ethnique et culturelle du pays serait en fait la vraie victime des discriminations. Dans le cas des comiques, il y a aussi un autre facteur, c'est la très large diffusion par les réseaux sociaux. Un sketch qui passait inaperçu dans la ville très libérale de Bombay peut se retrouver diffusé dans des parties beaucoup plus conservatrices du pays. Les artistes refusent désormais parfois de filmer leur spectacle de peur qu'il soit accessible à 1,3 milliard d'habitants.
C'est ça. Cette pensée unique et cette obsession de l'hindouphobie, est-ce qu'elle touche d'autres contre-pouvoirs? On pense entre autres évidemment aux caricaturistes.
Justement, avant-hier, le même jour que pour Kunal Kamra, la Cour suprême a demandé des explications à la caricaturiste Rachita Taneja, qui est elle aussi menacée de procès. Elle est l'auteure d'une série de cartoons féministes baptisés « Serviettes hygiéniques », très critiques envers la religion et le pouvoir. Et puis cette volonté de censure touche d'autres secteurs culturels. Récemment, une série Netflix a provoqué la colère des fondamentalistes. On pouvait y voir une scène de baiser entre hindous et musulmans dans un temple. Deux employés de Netflix ont été arrêtés par la police pour apologie du « love jihad », c'est-à-dire de la conversion par l'amour des hindous à l'islam.
Vous m'avez dit en préparant l'émission comme que le procès Charlie avait trouvé un certain écho en Inde, mais pas forcément celui qu'on aurait pu espérer.
Oui, c'était assez déstabilisant car le hashtag « Je soutiens la France » était à la une pendant plusieurs jours après l'assassinat de Samuel Paty et on m'en parlait dans la rue. Mais le problème, c'est que ces soutiens sont les mêmes qui traquent aujourd'hui les artistes anti-hindous. Au fond, ce n'est pas la liberté d'expression qu'ils entendent défendre. Ils voient plutôt Charlie Hebdo comme un journal qui critique l'islam. Voilà tout. Je doute d'ailleurs qu'ils auraient cautionné des caricatures de leur propre dieu.
Et pas sûr non plus qu'ils approuveraient cette belle déclaration de Richard Malka, l'avocat du journal Charlie Hebdo, à l'issue du procès mercredi. Je le cite, « On ne transforme pas une religion en programme politique parce que nous ne voulons pas vivre sous le joug des dogmes, parce que nous voulons rester libres et vivre ensemble. Il faut donc laisser sa religion chez soi. » Merci beaucoup, Com, pour cette plongée dans le monde de la comédie et de la satire en Inde. À bientôt.
À bientôt.
Et bien loin des scènes de stand-up indiennes, c'est en Éthiopie qu'on sera dans quelques instants, ou plutôt sur sa frontière avec le Soudan, où des dizaines de milliers de réfugiés affluent depuis plus d'un mois et demi. Ils fuient les combats dans leur propre pays.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Avant le mois dernier, peu de monde connaissait le Tigré, une région rurale et pauvre du nord de l'Éthiopie, ce pays de la Corne de l'Afrique. Une région sur laquelle le Premier ministre éthiopien a lancé le 4 novembre dernier une opération militaire qui a fait des victimes et qui a provoqué une vague d'exode vers le Soudan, son voisin de l'Ouest. Bonjour Patricia Huon.
Bonjour Sophie.
Vous êtes rendue sur cette frontière entre l'Éthiopie et le Soudan où ont afflué quelques 50 000 habitants du Tigré. On va écouter votre reportage, mais est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qui s'est passé début novembre? Pourquoi cette offensive décidée par les autorités sur leurs propres citoyens?
Eh bien, pour Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, il s'agit de mater les velléités autonomistes du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, qui est à la fois un parti politique et un mouvement militaire et qui a dirigé l'Éthiopie pendant près de 30 ans jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018. Le premier ministre accuse donc le TPLF d'avoir attaqué des camps militaires fédéraux de la région et de chercher à déstabiliser le pays. Suite à ça, depuis début novembre, des combats ont eu lieu, des villes ont été bombardées et des violences ont été commises aussi contre des civils. C'est un conflit qui ravive de profondes divisions communautaires alors qu'une partie de cette région fertile est disputée entre deux peuples, les Tigréens et leurs voisins, les Amaras.
Voilà, et la première conséquence de ces combats, je le disais, c'est cet exode massif des civils provoquant une situation humanitaire très délicate à la frontière avec le Soudan. Vous y étiez encore il y a quelques jours, Patricia, dans la ville de Hamdayet. On écoute votre reportage et on vous retrouve après.
Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à apparaître dès l'aube, leur maigre possession sur le dos, l'air hagard, brûlé par le soleil. Une femme accompagnée de ses enfants, tout juste arrivée à Hamdayet, porte autour du cou une clé accrochée sur un cordon noir, celle de la maison qu'elle a laissée derrière elle.
J'ai marché pendant deux jours. C'était très fatigant, surtout pour mes 8 enfants. Nous avons eu des problèmes sur la route, on m'a volé mon argent. J'ai aussi vu des jeunes hommes être frappés, certains ont été arrêtés.
Dans l'exode, beaucoup ont été séparés de leur famille. Shalom a 8 ans, un sourire à faire tomber les anges, de grands yeux bruns, le verbe facile. Lorsque les bombes sont tombées sur Oumera, une petite ville agricole du nord de l'Éthiopie, sa mère l'a poussée dans les bras d'un voisin et lui a ordonné de fuir.
Je lui ai dit que je ne voulais pas partir seule. J'avais peur. Mais elle était blessée à la jambe, alors elle m'a dit que je devais le suivre.
En un mois, 50 000 Éthiopiens, en grande majorité tigréens, ont fui les combats et des violences qui ravivent de profondes divisions communautaires. Genet Kassai, son fils de 2 ans sur les genoux, raconte comment 3 hommes en uniforme, armés, ont fait irruption chez elle.
Ils ont tué mon mari. Nous prenions un café à la maison quand ils sont arrivés. Ils l'ont emmené et l'ont tué. Ils disaient qu'ils transportaient de la nourriture pour les combattants du Front de libération du peuple du Tigré. Je l'ai cherché pendant 8 jours et j'ai trouvé son corps abandonné sur la plaine.
À Hamdayet, le centre de réception des réfugiés se situe à l'écart du village, autour d'une grande tente blanche où les nouveaux arrivants font la queue. Tout manque, nourriture, ombre, abri, couverture pour les nuits fraîches de cette région aride. Adas Gabrou, à la 60aine, elle dort seule, recroquevillée à même le sol, sous un drap tendu entre des morceaux de bois.
Voilà, c'est ici que je passe la nuit. La journée, il fait trop chaud. Je tente de trouver un coin d'ombre. J'ai tout perdu. Ici, je n'ai plus de maison, pas de jerrican pour aller chercher de l'eau, pas d'huile, pas de pâte ni de farine pour cuisiner.
Parmi les réfugiés, des paysans, des médecins, des étudiants, des comptables, des ingénieurs dont la vie a volé en éclats. Beaucoup sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu, dit Jason Rizzo, coordinateur de projet pour Médecins Sans Frontières.
En général, ils sont arrivés fatigués, stressés. Donc il y a le côté santé mentale qui est assez grave. Et avec le temps et avec le fait qu'il semble que le conflit en Éthiopie va continuer, et donc ça avoir un impact sur le côté mental.
Des preuves que des atrocités ont été commises ont commencé à filtrer. Les deux camps se rejettent la responsabilité. Parmi les réfugiés, beaucoup évoquent la présence de milices et des attaques ciblées en fonction de l'appartenance ethnique. Tesfalem Adgou, un commerçant, n'est pas parti immédiatement. Mais après quelques jours, la pression et les intimidations sont devenues trop fortes. Il dit avoir tout perdu et accuse le gouvernement de raviver de vieux conflits.
Ce sont des milices, les fanaux des milices amaras. Ils veulent voler nos biens, nos maisons, nos télévisions, nos réfrigérateurs, tout. Ils sont soutenus par l'armée. Ils disent que la terre est à eux et ils veulent nous en chasser.
Le transport des réfugiés a commencé vers Umm Raqquba, un camp isolé et déjà surpeuplé, situé un peu plus à l'intérieur du territoire soudanais, à environ 8 heures de route de la frontière. Un signe que la crise humanitaire n'est pas passagère et pour ces milliers de réfugiés, l'espoir d'un prochain retour s'amenuise. À Hamdayet, au Soudan, Patricia Huon, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et toujours en ligne avec vous, Patricia. Vous avez quitté cette ville frontalière et vous êtes désormais à Khartoum, la capitale du Soudan. La situation humanitaire est vraiment préoccupante pour ce qu'on en sait, hein, parce qu'il y a peu d'infos sur ce qui se passe encore dans le pays.
Effectivement, le gouvernement éthiopien a coupé pendant plusieurs semaines toutes les télécommunications dans la région du Tigré. L'accès aux médias et aux organisations humanitaires a été bloqué. La guerre se déroule donc à huis clos et c'est seulement cette semaine que les premiers convois d'aide humanitaire internationale ont pu pénétrer au Tigré sous le contrôle de l'armée éthiopienne. De l'autre côté de la frontière, côté Soudan, où des milliers de personnes ont trouvé refuge, les conditions sont aussi très difficiles, on l'a entendu. Il faut quand même noter que le Soudan a accueilli ceux qui fuyaient les combats, alors que plus d'un million de réfugiés vivent déjà dans le pays. Le Soudan est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il traverse actuellement une grave crise économique. Le gouvernement voit donc dans cette arrivée massive un problème supplémentaire qu'il n'a pas les moyens de gérer. Et il craint aussi un épanchement du conflit sur son territoire. Les autorités veulent donc emmener les réfugiés à l'écart de la frontière, dans des camps isolés, où les services sont pour l'instant malheureusement très très limités.
Quelques mots tout de même, Patricia, de ce Premier ministre Abiy Ahmed qui s'était vu décerner le prix Nobel de la paix en 2019, salué par la communauté internationale comme un jeune dirigeant réformateur. Est-ce que tout le monde s'était trompé sur lui ?
Eh bien, pour comprendre, il faut d'abord savoir que l'Éthiopie est un pays plutôt complexe avec 10 régions assez autonomes. Et cette offensive, donc, Abiy Ahmed l'a menée officiellement au nom de l'unité du pays pour éviter que les Tigréens ne fassent sécession. Les dernières années, avant son arrivée au pouvoir, le pays était au bord du désastre. Des milices régionales s'étaient développées, elles contestaient le pouvoir central ou s'impliquaient dans des conflits locaux. Ce prix Nobel de la paix laissait espérer la fin de la répression menée par les forces fédérales. Mais Abiy Ahmed semble tellement imprégné de cette idée qu'il doit sauver l'Éthiopie, empêcher sa dislocation, qu'il est prêt en fait à écraser une région entière dans la violence pour cela. Or, il y a peu de chances que ce conflit au Tigré stabilise le pays et restaure l'ordre. Au contraire, alors que l'armée fédérale a pris brutalement le contrôle des grandes villes du Tigré, le conflit risque de se transformer en une guérilla fratricide, meurtrière et pérenne.
Et l'Union européenne a suspendu cette semaine l'aide budgétaire qu'elle apporte à l'Éthiopie, près de 90 millions d'euros, tant qu'une solution politique ne sera pas trouvée dans le pays. Merci beaucoup, Patricia, de nous avoir emmenés sur cette frontière, permis d'entendre ces réfugiés et d'avoir décrypté pour nous la situation en Éthiopie. Merci, à bientôt.
Merci.
À suivre, un petit voyage en Autistan avec Joseph Chovanec, lui-même, en chair et en os.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il est philosophe, autiste Asperger, c'est le plus voyageur de la team Carnet et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Il est avec nous en studio. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Joseph Chovanec, notre guide pour ces balades que nous faisons chaque dimanche en Autistan. Et aujourd'hui, Joseph, c'est une balade sucrée.
Oui, Sophie, je l'avoue, juste avant Noël, j'ai craqué encore plus que d'habitude et pour le sucre. Quand j'y réfléchis, je crois que les choses dont je me souviens le mieux, y compris pour ce qui est des souvenirs lointains d'enfance, eh bien, concernent le sucre. Et les mots pour les désigner sont naturellement incontournables quand on veut apprendre une langue ou tout simplement voyager. Süßigkeit en allemand, Halawiyat en arabe, autant de mots magiques qui me font rêver quand je les voix. Et pourtant, j'ai passé l'âge de croire au Père Noël. Pendant longtemps, je m'étais cru bizarre. Mais un jour, en suivant un très savant cours d'étymologie indo-européenne, le professeur, qui était une sorte de génie excentrique, a prononcé un mot sanskrit. Puis il a dit que ça pouvait se traduire par gâteau ou sucrerie. Et il y a eu dans les yeux du prof une lueur extraordinaire à ce moment-là. Il s'est interrompu pendant quelques secondes. Ce petit épisode m'a beaucoup marqué et déculpabilisé.
Ben c'est ça, vous n'étiez pas tout seul à penser sucré.
Exactement, mais l'ennui quand on voyage, c'est qu'il faut savoir accéder à ces délices sucrés. Hein. Et voilà le premier obstacle, parce que dans certains pays, il n'y a pas de dessert sucré au sens exact. Hein. En Iran, par exemple, c'était ma grande frustration pendant ma période iranienne. Jamais de dessert à la fin des repas, ni chez les amis, ni au restaurant, au mieux un thé. Je n'osais pas réclamer, mais toujours je regardais fixement vraiment dans la direction de la cuisine en espérant un miracle, mais en vain, quoi, hein, pour avoir des chances de déguster les chauds lézards. Alors, c'est une crème jaune absolument unique et autre délice sucré iranien. Il faut s'inviter chez vos amis en dehors des heures de repas. Hein, ou alors, essayer de court-circuiter le processus en achetant soi-même ce qu'il faut.
Ah bah du coup, vous vous êtes fait, j'imagine, un lexique spécial dessert dans toutes les langues que vous pratiquez ?
Ah, j'aimerais, mais on tombe sur un deuxième problème. Hein, parce que quand on veut acheter soi-même, justement, il faut connaître le vocabulaire. Ouais. Et ça ne figure pas dans les dictionnaires classiques. Hein. Ouais. Avant de vous y retrouver avec le stress des relations sociales dans une boulangerie iranienne, entre les rotab et autres bamiyé, hein, ça prend du temps. Hein. Et bien des échecs. Combien de fois je me suis retrouvé avec dans mon sac une sorte de farine ou je ne sais quoi de peu comestible. Les erreurs de prononciation se payent cher.
Bon, sinon, il vous reste là le langage des signes. Hein. Joseph, vous montrez ce que vous voulez dans la vitrine et puis voilà.
Non, Sophie, ce n'est pas si simple parce que dans beaucoup de pays, le boulanger ou son homologue n'a pas de stock. Hein. Il prépare ce que vous voulez. Hein, voilà. Il faut donc savoir passer commande comme un pro. Hein. Mais inutile d'aller aussi loin que l'Iran pour avoir de potentiels problèmes de communication autour des pâtisseries. Je suis sûr qu'un Français serait perdu dans une boulangerie belge, même une boulangerie belge francophone. Il n'y a ni pain au raisin, encore moins au chocolat. On vous proposera sans doute des kougnous hein, ou alors des cooks.
Ah oui,
les plus gourmands voudront aussi du sirop de liège, mais ce n'est pas une boisson. Hein. Ah oui, l'univers du sucré est très compliqué. Hein. Dans certaines cultures, les produits sucrés sont plutôt ceux au naturel. Hein. Je veux dire les plantes sucrières. Ouais. Hein. Pour un Européen, goûter au jus de canne, alors canne à sucre, mais on ne le précise jamais parce que à moins d'être étranger, évidemment. Hein, donc un jus de canne frais pour la première fois, c'est une initiation dont on se souvient toute sa vie. Pour moi, ce fut aux Antilles, sur le bord d'une route. Et parfois, le sucré devient une métaphore de tout le sens de la vie humaine. En Asie, on entend souvent ces deux vers du père spirituel du Pakistan, hein, l'immense poète mystique Iqbal, hein, qui écrivait aussi bien en ourdou, en anglais qu'en persan. Garche ourdou dar uzubat chekarast lik parsiams hindi shirin tarast. Donc bien que l'ourdou en douceur soit-elle le sucre, pourtant mon persan est plus sucré. Hein. Toute une philosophie de vie à laquelle j'adhère totalement.
Quand la poésie marie les langues et le sucre, deux de vos passions, tout va bien. Merci Joseph pour ce moment qui nous aura mis en appétit avant les fêtes et puis vous revenez en 2021.
Absolument, bonne fête à tout le monde.
Bonne fête à vous. C'est la fin des Carnets du Monde. Merci de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Vous pouvez retrouver, vous savez, le replay des carnets sur europe1.fr à la page des Carnets du Monde. Dans un instant, c'est Nicolas Caro qui prend la main. Nicolas, spécial Junio, spécial Noël.
Spécial conte, oui, on va lire le grand conte de Noël de Charles Dickens. Mmh. Et puis, effectivement, Gérard Junio vient nous raconter des contes un peu particuliers, vous allez voir. Le Père Noël est une ordure, bien sûr.
Évidemment. Merci Nicolas. La Voix et Livre, c'est dans quelques minutes. Avec Marc Fréjean qui a réalisé cette émission et Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer, on vous souhaite de très belles fêtes et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Ce seront des morceaux choisis des Carnets du Monde. À très bientôt.